Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être, la team du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours dans ce studio, il est mon coéquipier pour vous, votre santé, pour vous parler de santé dans la bonne humeur, bien sûr. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Oui, bonjour Mélanie, ou bien le Neymar de la médecine.
Vous aimez bien ça?
Oui,
allez, on va
ça.
Garder ça, le bonjour Neymar Mélanie. De la médecine. Allez, au programme aujourd'hui avec le Neymar de la médecine. Dans notre grand dossier du jour, une promesse de notre invité, quand vous serez vieux, tout ira bien. Alors il sait de quoi il parle, c'est le docteur Antoine Piot, il est médecin gériatre et il va nous expliquer cet après-midi d'abord qu'est-ce qu'un vieux. Il nous dira aussi comment utiliser les nouvelles technologies pour vivre mieux et plus longtemps. Bref, on vous propose aujourd'hui de nombreuses explications scientifiques et sociétales, d'astuces pour bien vieillir et rester serein. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien, nous ferons le point sur une substance bien-être à la mode, le CBD, le cannabidiol, qui est présent dans de nombreux produits, crèmes, huiles, pour nous aider soi-disant à lutter contre l'anxiété ou les insomnies. Nous interrogerons Adélaïde Robert-Guéraudel du magazine 60 millions de consommateurs qui a enquêté sur le sujet dans son dernier numéro. Enfin, vers 15h50, comme tous les jours, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique. Aujourd'hui, il sera question de ses parents qui ne voient pas leurs enfants grandir et devenir adultes et qui refusent même d'envisager qu'ils ont désormais une vie amoureuse, voire même sexuelle.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on va démarrer par cette question de Rudy qui vit à Malakoff en banlieue parisienne. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'avais une question. Ma fille de 2 ans et demi, elle a un peu de fièvre. Bon là ça va mieux, mais c'est vrai qu'elle ne mange plus depuis un petit moment. Et j'ai aussi remarqué qu'elle avait des sortes d'aftes dans la bouche. D'après vous, ça pourrait être quoi? Merci pour votre réponse. Bonne émission.
Alors évidemment, Rudy, un message qui est un peu inquiétant. Alors on vous conseille évidemment en premier lieu de consulter votre pédiatre pour votre enfant, surtout s'il ne se nourrit plus correctement. Jimmy, on peut peut-être quand même aiguiller un tout petit peu ce papa qui va bien sûr aller consulter. Ce qu'il décrit chez son jeune enfant, des sortes d'aftes dans la bouche, ça peut être quoi?
Ça ressemble, si on prend l'âge, le fait que ce soit un enfant qui ait de la fièvre et des boutons dans la bouche chez un enfant qui refuse de manger, à ce qu'on appelle une gingivostomatite. C'est une infection de la bouche qui va se manifester par de la température qui est souvent élevée en plateau, température qu'on a du mal à faire descendre. Et ensuite, on va avoir des boutons, des érosions qui vont ressembler à des aftes dans la bouche, autour de la lèvre parfois, au niveau de la langue, des gencives et même dans l'arrière du palais, rendant l'alimentation très difficile.
Alors, c'est grave? Est-ce que c'est quelque chose de fréquent et c'est causé par quoi justement?
Alors, c'est une infection virale qui est causée par un virus, le virus du type herpès. C'est une grande famille de virus. C'est hyper fréquent, ça touche les enfants de 6 mois à 6 ans. Et si on prend les enfants de 5 ans, dans 80% des cas, ils ont tous été immunisés ou en tout cas mis en contact avec ce virus. Pour autant, on ne développe pas tous cette gingivostomatite. Parfois, on a juste un peu de température et parfois, c'est beaucoup plus bruyant. Donc, c'est une maladie qu'on trouve plutôt chez l'enfant et l'immunité conférée par l'infection, elle est partielle. Ça veut dire qu'on peut faire des réactivations et faire des récurrences, un peu comme un bouton d'herpès.
Jimmy, comment ça se traite quand on est face à une gingivostomatite aiguë? Je l'ai bien dit,
c'est
bien. Encore une fois, Rudy, consultez bien sûr votre médecin. Mais Jimmy, le traitement pour soigner ça?
Alors, on donne du paracétamol, c'est-à-dire du doliprane et rien d'autre. Surtout pas d'anti-inflammatoires qui vont aggraver les lésions. L'enjeu principal, c'est l'hydratation, notamment des enfants qui vont avoir du mal à manger. Ça, on peut l'accepter. Mais en revanche, ils peuvent être déshydratés car le simple fait d'avaler de l'eau est extrêmement douloureux. D'une façon générale, on leur recommande d'éviter tout ce qui est salé, amer ou acide et de privilégier le sucré en attendant que ça passe. Si votre enfant a un peu plus de 2 ans ou 1 an, on peut essayer de proposer un peu de miel qui peut essayer de calmer la douleur, adoucir, mais ça guérit spontanément en quelques jours et ça met parfois une bonne semaine avant de se débarrasser des boutons.
Très clair, merci beaucoup Jimmy. On va prendre une autre question d'auditeur pour vous, c'est Carmen dans les Hauts-de-France qui nous a envoyé une question via les réseaux sociaux, via Twitter précisément. Je vous la lis, mon mari a de nombreux kystes dans le dos depuis plusieurs années, il les fait retirer régulièrement chez le dermatologue, mais depuis quelques jours, il en a un gros qui s'est infecté car il a dû le gratter, le petit coquin. On peut le soigner seul à la maison? Si oui, comment? Alors Jimmy, la question c'est ça. Jimmy, d'abord, avoir beaucoup de kystes comme elle le décrit, c'est normal d'avoir plein de kystes dans le dos?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur la peau, on a des glandes qu'on appelle les glandes sébacées. Elles vont produire du sébum. Ce sébum, il est là pour lubrifier en quelque sorte la peau, l'hydrater. Sauf que pour une raison qu'on ne connaît pas bien, il va y avoir une dysfonction au niveau de ces glandes qui vont se boucher, entraîner plus de sébum. Et ce sébum va s'accumuler sous la forme d'une petite boule qu'on appelle un kyste, qui va avoir une paroi qu'on appelle une coque et qui va renfermer notamment ce sébum et qui va parfois s'infecter, donnant ces boutons qui font très mal, qui vont toucher le visage, le tronc et parfois n'importe quelle partie du corps.
D'accord. Elle dit que l'un d'entre eux s'est infecté. Alors comment c'est possible? Elle dit qu'il a dû le toucher. Hein. Souvent, quand on a des boutons, des kystes, on trifouille, il ne faut pas. Évidemment, il faut demander surtout un avis à un dermato, non?
Oui,
dans
alors,
un premier temps.
On sait que parfois, certains facteurs, notamment le tabac, le stress, la fatigue, peuvent déclencher une poussée de ces boutons. Mm-hmm. Et dans d'autres cas, lorsque ces boutons sont très récurrents, ces kystes, notamment surviennent au niveau des aisselles. Ça peut être une maladie dermatologique qu'on appelle la maladie de Verneuil. Donc évidemment qu'il faut consulter et ne surtout pas les trifouiller.
Même si on adore ça, trifouiller les boutons.
Et oui, mais je vous ai dit que le kyste avait une paroi, une coque. Si vous le trifouillez, que vous le percez vous-même, vous allez éliminer ce sébum qui va être en excès, l'inflammation. Mais en revanche, il va persister la coque qui va faire que ce kyste va persister des semaines, voire des mois. Et donc, il va falloir aller voir le dermatologue pour les vider, le gratter et s'en débarrasser.
Faire une exérèse. Très rapidement, comment il règle l'inflammation? Parce que dans ce stade-là, infecté, on n'enlève pas. Hein. C'est
non,
inflammatoire,
exactement.
On n'y touche pas.
Au stade inflammatoire, sauf quand il y a un abcès, c'est-à-dire qu'une collection de pus qui est formée, on va le retirer chirurgicalement. Mais dès les premiers signes, dès que vous voyez une rougeur, commencez immédiatement par désinfecter correctement, 2 à 3 fois par jour avec un antiseptique. Si vous attendez que la boule se forme, eh bien là, c'est 2 semaines de galère. Et donc là, direction le médecin. Et évidemment, on ne trifouille pas.
Merci beaucoup, Jimmy. On ne trifouille pas, c'est vrai, j'adore ça, mais il ne faut pas le dire. Alors si vous aussi, comme Carmen, qu'on vient d'entendre, voulez nous laisser vos questions santé au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous notre invité du jour. C'est vous, docteur Antoine Piau. Bonjour.
Enchanté, bonjour.
Alors vous êtes médecin gériatre et auteur du livre « Quand je serai vieux, tout ira bien » aux éditions Hachette. Alors pour commencer, docteur Piau, puisque ce sera notre sujet du jour, et c'est la première question de votre livre d'ailleurs, c'est quoi un vieux? Jimmy se demande d'ailleurs, parce qu'il s'est toujours senti un peu vieux.
Wow, parce qu'on est c'est tout... vous, Mélanie, qui basculez petit à petit. C'est une zone où vous allez consulter le docteur Pio bientôt, il s'occupera de vous.
Mais je suis là pour ça.
D'une certaine façon, docteur Pio, on est toujours le vieux de quelqu'un. Mais c'est quoi être vieux?
Et justement, c'est assez compliqué à définir. On a énormément de mal à définir ce qu'est un vieux parce que nos cellules ont la mauvaise idée de ne pas suivre l'âge qui a marqué dans notre carte d'identité. Et pour preuve, maintenant, on peut parfaitement transplanter les organes d'une personne plus âgée, un plus jeune, ça ne pose aucun problème. Tout dépend de notre âge physiologique. Et la preuve en est que, par exemple, à Toulouse, l'un des plus grands programmes de recherche gériatrique de France, qui s'appelle le projet INSPIRE, vise à trouver justement les biomarqueurs du vieillissement, c'est-à-dire des biomarqueurs biologiques qu'on peut analyser à travers une prise de sang, par exemple, qui nous disent quel âge vous avez réellement. Donc la question, c'est qu'on ne sait pas, en fait.
Donc ça veut dire que moi, bien que j'ai quelques jours de plus que le docteur Jimmy Mohamed,
quelques jours à vivre,
voilà,
encore.
À peine, non, mais ça veut dire que je suis peut-être plus jeune que lui physiologiquement.
Absolument,
c'est ça,
mais ça saute aux yeux.
Ça me rassure. J'adore cette émission.
Je crois que c'est pas très confraternel. À mon avis, la suite de l'interview va mal se passer.
Je sais pas encore d'où vient le danger, donc je vais...
Ah, le danger, croyez-moi, qui vient d'en face de vous, mais c'est vrai que vous êtes cerné. Alors, d'une façon générale, à partir de quel âge nos cellules, ou même peut-être d'un point de vue anatomique, nos organes commencent à vieillir?
Alors, très très jeune. Hein. Alors, je vais pas citer un âge précis, mais c'est plutôt la deuxième décennie, quoi. C'est plus 20-30 ans que 60, là, il n'y a aucun doute. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire grand-chose, parce que la vitesse est tellement différente d'une personne à une autre. La particularité des personnes âgées, c'est leur hétérogénéité. C'est-à-dire, il y a des gens à 60 ans qui n'ont plus aucune vie relationnels tellement ils sont abîmés, et il y en a d'autres qui, à 80 ans, font des records au marathon de New York, par exemple.
Justement, comment on explique ces différences? Pourquoi certains vieillissent bien plus vite que d'autres? Est-ce qu'il y a un terrain génétique, ethnique? Moi, je pense que l'humour, contrairement à Jimmy, me maintient en vie. Quoi.
Non, mais ça, c'est vrai, c'est un fait. Hein, l'humour maintient en vie, ça, c'est démontré scientifiquement. Mais bon, bref, c'est pas ça qu'on disait. Donc, il y a certes un terrain génétique, il n'y a aucun doute là-dessus, mais il n'est pas prépondérant.
D'accord.
C'est-à-dire que, alors ça, c'est très dur à démontrer, mais en gros, quand on cumule un peu tout ce qui se publie à droite à gauche, on en arrive à la conclusion que c'est un tiers, deux tiers. Donc c'est un tiers génétique et deux tiers votre mode de vie. Donc malheureusement, vous ne pouvez pas juste vous dire « on verra bien ce que me donnent mes gènes et je me laisse aller », ça ne fonctionne pas parce qu'il reste deux tiers à compléter.
Alors les auditeurs ne le savent pas, mais Mélanie marche très lentement, elle a un peu du mal à se mouvoir. Est-ce que, je ne sais pas, par exemple, la vitesse de marche pourrait aussi être un révélateur de notre âge un peu physiologique?
Alors, non seulement c'est un bon révélateur de la physiologique, mais il y a plein de gens dans le monde qui suggèrent que ça devienne la sixième constante vitale.
Ah ouais.
C'est-à-dire que c'est aussi important que votre pouls, votre tension artérielle, votre saturation en oxygène. Et ça peut paraître un peu farfelu comme ça, mais en réalité ça ne l'est pas. parce que la marche reflète le fonctionnement de tous nos organes. C'est-à-dire, si nos sens ne fonctionnent pas bien, si notre cerveau ne fonctionne pas bien, si nos muscles, nos os, nos articulations, bon, vous avez compris où je voulais en venir.
Ouais, il faut que mais comment tout on sait si on marche bien. Vite ou pas? Parce qu'il dit n'importe quoi. Moi, je marche très bien.
Chronomètre, comme des couillons en chronomètre. Ouais. Bon, alors, on a pas mal de recherches de nouvelles technologies pour mesurer de manière très très fine. Par exemple, moi, j'ai fait des travaux où on mesurait à 0,1 cm par seconde. Oui. Mais en réalité, on a un cut-off très simple, grossier pour que les gens comprennent, c'est 1 mètre par seconde. Donc, c'est tranquillou. Hein. Et 1 mètre par seconde, pour avoir une idée, c'est le bonhomme vert au passage piéton.
Ah,
c'est
d'accord.
Le temps que vous avez pour traverser le passage piéton. Donc, l'image, c'est si vous traversez avant le camion, c'est que vous allez vivre longtemps. Si vous passez sous le camion, c'est mauvais signe. Donc, je vous invite à aller le faire de ce pas. Non, je plaisante. C'est très, très, très schématique.
On a combien de personnes âgées en France? Ce qu'on a l'impression qu'il y en a énormément. Est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes? Est-ce qu'il y a une répartition égale?
Alors, il y a un peu plus de femmes, hein, forcément. Ce qui nous intéresse, nous, en fait, c'est les personnes âgées en situation de perte d'autonomie. Et ça, finalement, il y en a très peu, puisqu'en gros, c'est 900 000 personnes qui sont lourdement dépendantes en France. Et c'est pas énorme, hein, il y en a 66 millions, hein, je crois. Donc, c'est peu de gens. Et surtout, ils restent assez peu de temps dépendants. C'est ça, l'image biaisée que l'on a. Et d'ailleurs, moi, à titre personnel, je me plante toujours quand je donne l'âge d'une personne, parce que moi, je vois que les gens qui vont pas bien. Je vois que les gens qui sont malades, etc. Et quand je vais dans une boulangerie...
Mélanie, vous avez quel âge?
J'en étais sûre. Je le vois, je lui dis non, il allait me demander quel âge j'ai. Non, mais je le dis tout de suite, j'ai 38 ans et je ne les fais pas. Hein, voilà.
Non, vous ne les faites pas.
Il n'a pas le choix, il est obligé de vous mentir, Mélanie.
Je le voyais déjà arriver.
Donc, non, donc c'est très, très difficile. Et non, on reste peu de temps dépendant en France, Dieu merci. Et on est assez peu nombreux à être lourdement dépendants.
Alors, dans votre livre, vous dites que le bien vieillir, ça passera pas forcément par des nouveaux médicaments qui vont nous faire vivre éternellement. Vous disiez, bon, il y a un peu de génétique, mais 60%, 70% de non-génétique. Donc, ça passe par quoi? Et ça se commence dès l'enfance.
Alors, je vais essayer de... Alors, il y a les lieux communs. Hein. Il y a mieux manger, mieux plus s'activer, marcher, qui sont malheureusement vrais, ou heureusement d'ailleurs, parce que ça participe aussi à la bonne humeur et au bon sommeil. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des choses qu'on dit moins. C'est notamment l'organe cerveau. Qu'est-ce qu'on fait pour stimuler l'organe cerveau? On parle souvent de stimulation cognitive, etc., de sudoku, mais avant d'aller faire de sudoku, c'est pas ça qu'il faut faire.
Hein. Il faut avoir des amis,
il faut parler à des gens. Et en réalité, plus le nombre, l'intensité, la qualité de vos relations sociales est importante, et plus votre espérance de vie en bonne santé est importante. C'est quand même dingue. Ouais. C'est aussi important, encore une fois, que le résultat de votre prise de sang ou la liste de vos médicaments. C'est avec qui vous parlez et comment vous leur parlez. C'est très bien d'aller discuter météo avec la voisine, mais c'est pas ça la stimulation. Hein. Bon. C'est aller chercher la contradiction, etc.
Pour avoir une bonne vieillesse, il faut avoir plein d'amis. On aime bien. Docteur Pio, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez avec nous.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé et Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors aujourd'hui, notre invité en studio avec nous, c'est le docteur Antoine Pio. Je rappelle que vous êtes médecin gériatre et l'auteur du livre dont on parle aujourd'hui, Quand je serai vieux, tout ira bien, aux éditions Hachette. Donc docteur, aujourd'hui, vous n'aimez pas qu'on dise, on va commencer à parler de ça, parce qu'on parle des vieux, de qu'est-ce que c'est un vieux depuis tout à l'heure, mais vous n'aimez pas qu'on appelle les vieux, entre guillemets, maminette ou papinou, c'est quoi le problème?
Ouais.
C'est mignon.
Et inversement, j'aime pas qu'on dise une personne d'un certain âge. C'était comme si le vieux, c'était un gros mot, quoi, en fait, comme si c'était problématique. Et ça,
vous c'est voulez qu'on appelle un vieux.
Un vieux, c'est ça. Ben, mais ils s'appellent comme ça eux-mêmes. Hein. Il y a pas de souci avec ce terme. C'est pas péjoratif, encore une fois. À chaque fois qu'on parle de la vieillesse, on a l'impression de parler d'une épidémie de peste, alors
ouais,
c'est le but ultime que nous envie toute l'humanité, c'est de vieillir. C'est quand même dingue, quoi. Et finalement, plus on vieillit, autant il y a des idées reçues sur la vieillesse, autant c'est vrai que plus on vieillit, moins on est considéré comme une personne. Et le fait de dire tous les vieux sont gentils, c'est un déni de personnalité.
Non, il y a des méchants. Hein. J'en vois quelques-unes au supermarché parfois.
Il y a des jeunes absolument géniaux, il y a des jeunes cons et il y a des vieux géniaux, il y a des vieux cons, point. C'est des personnes à part entière et ne pas les critiquer, c'est aussi problématique que les dénigrer finalement.
C'est vrai que Mélanie, je vous imagine dans 25 ans, à mon avis, ça va être vraiment compliqué.
Ça va être l'enfer.
D'ailleurs, on a une auditrice, une fidèle auditrice sur Twitter qui nous dit que la vieillesse commence, si on n'y prend pas garde, le premier jour de la retraite professionnelle. Est-ce que c'est vrai que du coup, lorsqu'on bascule vers l'inactivité, les choses se dégradent liées au fait qu'on arrête de travailler ou c'est tout simplement le fait qu'on est un peu âgé?
Alors, ça commence le jour de la naissance, la vieillesse, si on n'y prend pas garde. Non, elle a raison. C'est-à-dire que la retraite, c'est une phase de transition qui est sous-estimée, je pense. C'est une rupture d'une brutalité phénoménale qui n'arrive pas 50 fois. Et je pense que si on vivait ça à l'âge de 30 ans, ça ne se passerait pas très bien non plus. Qu'est-ce que je veux dire? En fait, je reviendrai sur l'aspect social. C'est-à-dire, quand on est petit, c'est super facile de se faire des liens sociaux. On va au toboggan, on trouve un coquillage,
un
escargot, c'est réglé, on est les meilleurs potes du monde deux secondes après. Après, il y a l'école, la fac, comme vous dites, après, il y a le monde du travail, et si on n'y prête pas garde, et si on n'est pas vigilant, après, ça s'appauvrit. Et ça, c'est vraiment très, très, très capital. Et finalement, à la retraite, c'est beaucoup plus une transition sociale qu'une transition de santé.
Voilà, en France, il suffit de regarder ce qu'on fait de nos vieux, puisqu'on a dit qu'on utilisait ce terme-là aujourd'hui. Soit ils s'isolent d'eux-mêmes, soit on finit en EHPAD. Et c'est vrai qu'ils sont un peu ghettoisés d'une certaine façon.
Tout à fait, ouais.
Donc c'est aussi dans notre pays. Les vieux, on les met de côté, quoi. C'est
oui,
ça.
Clairement. Alors, c'est pas que dans notre pays, c'est dans beaucoup de pays développés. Mais c'est vrai qu'on a tendance à ghettoiser, à séparer chaque tranche culturelle, chaque tranche de civilisation. Et c'est un problème majeur. Et je dis pas ça juste pour faire bien, quoi. C'est réellement un problème. Et je prends l'exemple des vieux. Les vieux ne se rendent pas compte actuellement qu'ils ont des ressources inépuisables et super à la mode.
C'est à la mode,
mais
vieux.
C'est complètement
alors,
à la mode.
Allez, expliquez-nous.
Une chance pour vous, Mélanie, bravo. Vous allez sortir votre épingle du jeu d'ici la fin de l'émission. On est ravis.
Vieux à la mode, ça, on dit vintage, quoi. Non, mais vous prenez l'exemple. Qu'est-ce qu'il y a à la mode en ce moment ? Les motos vintage. Ben, qui c'est qui a des motos vintage dans son garage ? C'est les vieux. Qui c'est qui sait bricoler les motos vintage ? C'est les vieux.
Oui.
Qu'est-ce qu'il y a à la mode ? C'est les confitures maison. Qui c'est qui a la recette ? C'est mamie.
Qu'est-ce qu'il y a à
la
mode ?
C'est la couture. C'est le tricot.
Et qui
sait ? Et qui c'est qui sait faire ça ? C'est-à-dire le jardinage. En fait, tout ce qu'ils savent faire, tout le savoir-faire revient à la mode, mais on n'arrive pas à les connecter. On n'arrive pas à connecter les jeunes et les vieux. Et là, pour le coup, les réseaux sociaux ont un rôle positif à jouer. C'est assez drôle négatif comme ça. Il y a aussi des rôles positifs dont on peut se saisir. Et justement, pour mettre en relation ces différentes générations.
Il faut mettre
mamie
sur Twitter.
Voilà. Mais il ne faut pas hésiter à demander aux petites-filles d'aider mamie à aller sur Twitter et on fera d'une pierre deux coups.
Alors, on va vous aider, Mélanie, vous inquiétez pas.
J'y suis déjà.
Alors, souvent, dans la crainte des gens, on associe le vieillissement au fait de perdre la tête, d'être sénile, d'avoir de la démence. Est-ce que c'est un passage obligé ou certains seront épargnés ?
Alors, il y a beaucoup de maladies qui impactent la mémoire et la cognition au sens large. Ça s'appelle la mémoire, le langage, les savoir-faire, etc. Donc, tout le monde connaît Alzheimer, mais il n'y a pas que Alzheimer. Il y a les attaques cérébrales, donc les AVC qui sont plus ou moins bruyants. Il y a maladie de Parkinson, il y a l'alcool, il y a les traumatismes crâniens. Il y a plein de raisons. Et statistiquement parlant, plus on est vieux, plus on a de chances d'avoir ces maladies. Mais pour autant, ça n'est pas du tout lié à la vieillesse. Autrement dit, il n'est pas normal de devenir dément quand on est vieux. Et si vous regardez Bernie Sanders avec ses moufles-là, autant il a un look particulier, autant sa tête elle marche très bien. Quoi.
Mais vous dites justement, ça c'est une bonne nouvelle, qu'il y en a de moins en moins de démence, il faut le noter quand même.
Oui, alors il y en a de moins en moins proportionnellement par rapport au nombre de vieux. C'est vrai qu'on s'attendait à une explosion d'Alzheimer et vraisemblablement, il y a une diminution de l'incidence, c'est-à-dire ramenée à la population de vieux, qu'on explique mal. Qu'on explique
peut-être
très
plus d'études,
mal.
Plus
alors,
de...
Voilà, une explication possible, ça serait la hausse du niveau socio-culturel avec un effet protecteur sur les neurones. Mais là, c'est pareil, le mécanisme, il est mal démontré. Quoi. Oui. Mais c'est vrai que l'explosion attendue n'a pas eu lieu.
Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Docteur Piau, on va continuer bien sûr cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous. Elle nous accompagne cet après-midi. C'est vous, docteur Antoine Piau. Vous êtes médecin gériatre et vous allez nous aider à bien vieillir avec des conseils très pratiques à appliquer. Rajeunir même peut-être, on va voir. Et ça commence par bouger nos fesses, même un vieux. Alors, parce qu'on a dit, on dit vieux aujourd'hui.
Ouais, hein.
On n'a pas peur des mots. Un vieux doit marcher, ne pas rester assis le moins possible. Et vous prenez en exemple dans votre bouquin les astronautes. C'est quoi le rapport entre les vieux et les astronautes ?
Mais les astronautes, ils ne bougent pas du tout. C'est-à-dire qu'ils sont en lévitation. Et on sait que ça pose énormément de problèmes de santé. D'ailleurs, à Toulouse, on a la clinique spatiale qui étudie ça. Et la lévitation, c'est un modèle de vieillissement accéléré. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Il y a aussi des histoires de radiation, etc. Mais c'est vrai que le fait d'être allongé, de toute façon, le corps n'est pas fait pour être allongé. Il est encore moins fait pour être en lévitation. Et il n'est pas fait pour rester assis. Et on sait, par exemple, que rien que le fait de se lever de sa chaise une fois toutes les demi-heures, ça peut potentiellement diminuer le risque d'AVC.
Ça veut dire que pour moins bien, enfin, mieux vieillir, ouais, je me lève à la moitié de l'émission.
Bon,
ouais,
on est juste à la moitié. Ça commence à sentir le roussi. Et en fait, il faut surtout retenir que les 10 000 pas par jour, tout ça, c'est infaisable pour la plupart des gens. Donc, il ne faut pas partir là-dessus. Il faut toujours partir de soi-même. C'est à toujours faire un peu mieux à mon niveau. Si je reste dans mon canapé toute la journée à boire des bières devant la télé, ben juste me lever pour aller au frigo, c'est déjà pas mal.
Il a des objectifs petits, quoi.
Me lever pour aller au frigo, prendre la tablette de chocolat, c'est parfait.
Là, c'est bon. Et après, j'irai chez le boulanger. Et après, je ferai peut-être mettre 1 km, après je ferai peut-être 2 km. Donc les nouvelles résolutions, on sait très bien que ça ne marche pas quand c'est complètement farfelu ou complètement en rupture totale avec nos habitudes. Donc il faut juste ça.
Il rigole parce qu'on n'arrête pas de se faire des signes avec le docteur Jimmy Mohamed.
Non, mais c'est bon, en 2045, on fera un petit footing autour de la maison. Donc on commence par ça. Alors, vous avez parlé du frigo. L'alimentation, elle est aussi importante. Oui, quand on vieillit, on a souvent tendance à négliger ce facteur.
Complètement. Donc, avec l'avancée en âge, des fois, il y a un déséquilibre alimentaire qui se fait alors qu'il n'existait pas avant par des différences d'appétence à cause d'un dentier mal réglé, d'une pathologie buccale ou d'un médicament qui assèche la bouche, etc. Il y a aussi souvent une dénutrition qui passe totalement inaperçue. C'est-à-dire les gens mangent de manière a priori normale, n'ont pas faim, mais en réalité, ils ne mangent pas assez de protéines, ils ne mangent pas assez de glucides. Et souvent, on a des recommandations très différentes des gens plus jeunes chez les personnes d'un âge avancé, et notamment grignoter entre les repas, manger plus de protéines alors qu'on dit l'inverse aux jeunes, manger plus de sucre, ne pas manger sans sel alors qu'on dit l'inverse aux gens de 50 ans qui ont un problème cardiaque, etc.
Et à 70 ans, il ne faut pas faire de régime, il faut surtout manger un peu plus peut-être.
Alors,
même,
de manière générale, le régime, bon, c'est un peu un non-sens, parce que soit on change définitivement ses habitudes, soit on ne les change pas. Mais en plus, chez les personnes âgées, le risque de la dénutrition à un moment vient surpasser le risque métabolique de tout un chacun.
Est-ce que les nouvelles technologies peuvent venir en aide aux personnes âgées? Je pense notamment aux objets connectés. Est-ce que c'est des choses, on a des fois des montres qui permettent de mesurer...
Alors là, attention, on va mettre mamie sur Twitter et en plus on va lui acheter quoi?
Justement, est-ce que avec la fréquence cardiaque, des fois certains promettent la saturation, donc le nombre de pas, est-ce qu'il y a des outils comme ça qui peuvent aider justement nos anciens?
Alors oui, mais je vais mettre un bémol. Donc il y a des outils qui sont très gadgets, il y a des outils aussi qui viennent remplacer le contact humain et ça c'est pas bien. Et il y a des outils notamment pour le suivi de la personne entre deux consultations qui ont tout leur sens et qui peuvent même rajouter de la relation humaine, mais attention, ça sert à rien de mesurer tout n'importe quoi s'il n'y a pas quelqu'un au bout du fil pour analyser les données. Et finalement, le système de soins actuellement, il n'est pas trop fait pour ça. C'est-à-dire, on peut mesurer sa fréquence cardiaque pendant un mois. Derrière, il n'y a personne qui va la regarder, qui va vous donner des conseils pertinents. Donc la réponse est oui, ça rendrait service, mais il faut attendre une certaine mutation quand même du système de santé. Donc on est un peu entre deux eaux en ce moment.
Et on les équipe de quoi alors? Parce qu'on disait mettre mamie sur Twitter, d'accord, mais on achète pas... quoi? Une montre connectée? Enfin, qu'est-ce qui peut servir pour vraiment, qui est utile aujourd'hui si on a envie d'équiper les grands-parents?
De manière théorique, il serait très utile d'avoir le nombre de pas, la vitesse de marche,
donc une montre
l'évolution
connectée,
du poids, l'évolution de la masse grasse, donc une montre connectée par exemple, mais à l'heure actuelle, personne ne va regarder les résultats.
Bah, si nous, enfants, on regarde les résultats, déjà on peut aider un peu.
Donc, un petit peu, oui. Ouais. Donc, vous pouvez aider effectivement, mais c'est très hors médecine, quoi.
Et parfois, quand on vieillit, qu'on se retrouve en perte d'autonomie, on doit aller dans un EHPAD. Est-ce que c'est une bonne chose d'être dans un EHPAD? Est-ce que moralement, c'est pas difficile à vivre?
Ah si, alors moralement, c'est très difficile à vivre. Mais l'EHPAD, moi, je vois ça un peu comme une assurance auto. C'est-à-dire, j'ai pas envie de me caler sur un platane, mais j'ai quand même une assurance automobile. Donc, je pense qu'il faut anticiper son entrée en EHPAD au cas où on n'ait pas le choix. Par exemple, si on devient dément et qu'on a des retroubles du comportement la nuit et que c'est plus possible de rester chez soi. Et puis, si on n'y va pas, tant mieux.
Mais l'objectif, après... ça doit être quand même de rester chez soi le plus longtemps possible. On vieillit mieux quand on est chez soi ou pas?
Alors, on vieillit mieux quand on est chez soi, oui, sauf dans de rares cas où la personne est très isolée socialement et où finalement l'EHPAD lui amène un certain cercle relationnel. Mais ce n'est pas la majorité des cas.
Merci beaucoup, Dr Piau, de nous avoir accompagnés cet après-midi pour ce coup de jeune. Hein, et je rappelle le titre de votre livre, « Ceux qui voudront en savoir plus, quand je serai vieux, tout ira bien » aux éditions Hachette, un livre que je recommande. Merci encore, docteur.
Merci beaucoup.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi encore. Et à présent, on va passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Aujourd'hui, focus sur le CBD, le cannabidiol, une substance très à la mode dans des boutiques bien-être notamment. On vante les mérites de telle crème, telle huile pour aider à se détendre ou mieux dormir. Alors pour y voir plus clair, nous allons faire le point avec vous, Adélaïde Robert-Giraudel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de rubrique Santé cosmétique au magazine 60 millions de consommateurs, dans le dernier numéro est en kiosque. Il contient justement une enquête sur ce sujet. Adélaïde, d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le CBD? Parce qu'il y a parfois confusion dans la population, c'est pas du cannabis. Hein.
Non, c'est pas du cannabis. En fait, dans le cannabis, il y a une substance psychoactive, le THC, et justement, le CBD, en fait, ça provient d'un chanvre qui est très pauvre en THC, donc qui n'a pas d'effet psychoactif, et c'est pas un stupéfiant, c'est un produit donc bien-être, comme vous l'avez dit, qui est légal.
Alors pour en savoir plus sur les produits qui en contiennent à 60 millions de consommateurs, vous avez mené l'enquête à partir de 28 d'entre eux. Qu'est-ce que vous avez fait?
Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé ce qu'ils contenaient, si la quantité de CBD qui était affichée sur les produits était bien celle qu'on pouvait mesurer. On a regardé aussi si le taux de THC qui est réglementé, donc qui doit être inférieur à 0,2%, était donc réglementaire. Et puis on a regardé l'étiquetage en fait pour voir un peu ce qui était donné comme mise en garde, comme mode d'emploi, comme allégation, voilà.
Et alors, qu'est-ce qui ressort justement de cette enquête dans les grandes lignes? Est-ce que il faut changer, il faut réglementer? Enfin, qu'est-ce que vous avez montré?
Alors, ce qu'on a vu, c'est que le taux de THC était respecté. Globalement, ils jouent pas avec le feu, ça fait. Sinon, ils en feraient des produits stupéfiants. Par contre, le taux de CBD, on a vu un peu tout et son contraire, avec des produits qui contenaient plus que ce qui affichait, d'autres moins. Il y a même une crème, on en a pas du tout trouvé. Et sur l'étiquetage, en fait, on a vu que c'est quand même très flou. Il y a vraiment très peu d'indications sur comment les utiliser, sur les doses, sur les mises en garde, enfin voilà. Par contre, côté allégations, sur les allégations, on craignait en fait qu'il y ait des allégations dites thérapeutiques, c'est-à-dire ça traite, ça va vous guérir d'eux. Alors là-dessus, on n'en a pas trop vu sur les produits. En revanche, sur les sites commerciaux, c'est là où on voit le plus en fait des textes qui jouent sur les ambiguïtés avec le cannabis, où justement ils surfent un peu là-dessus, et sur des effets thérapeutiques.
Et justement, sur ces effets thérapeutiques, sur l'efficacité, on imagine les gens qui vont en prendre, notamment pour soulager une anxiété, un peu de stress ou même des insomnies. Est-ce qu'on a des preuves ou des éléments de réponse?
Alors, en fait, c'est pas si clair et c'est pour ça qu'on n'autorise pas des allégations thérapeutiques. En revanche, bien-être, oui, c'est un peu comme les tisanes nuit calme. On peut dire que ça aide à soulager l'anxiété, etc. Je pense qu'en ce moment, c'est beaucoup pour ça que les gens vont aller acheter des produits
au CBD.
Ça doit plutôt bien marcher. Mais ce qui est perturbant pour le consommateur, c'est que ces produits-là, ils sont vendus souvent à des doses différentes. On peut choisir un dosage 15%, 10%, 5%. Et en fait, on ne sait pas finalement sous quelle forme acheter le CBD, s'il faut plutôt une forme qui va être fumée ou avalée. Et on ne sait pas non plus à quelle dose on peut s'attendre à avoir un effet. Et c'est ça qui manque de clarté. Et surtout, ce que j'ai trouvé vraiment bizarre, c'est de voir finalement qu'il y a un médicament qui est à base de CBD, et qu'on a à côté de ça des produits bien-être, dont le taux de CBD n'est pas du tout réglementé. Ouais. Finalement, la frontière est hyper floue entre les deux. Et c'est vrai qu'on peut se retrouver à avoir des huiles, par exemple, avec du CBD, qui peuvent nous apporter quasiment la même quantité de CBD qu'un médicament. Alors que quand on regarde les notices, évidemment, on n'a pas du tout les mêmes mises en garde. Quand on regarde la notice du médicament, on découvre tout ce que ça peut quand même entraîner éventuellement comme interaction médicamenteuse, comme risque pour le foie. Donc finalement, on est quand même un petit peu avec un produit qui est a priori pas dangereux. Mais c'est vrai que pour un consommateur, ce serait quand même pas mal d'avoir plus d'infos sur comment l'utiliser, sur les doses à pas dépasser.
C'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que vous conseillez pour terminer finalement aux consommateurs, puisque c'est encore le grand flou finalement.
Ouais, c'est le grand flou. Alors le consommateur, lui, malheureusement, il peut être juste un petit peu vigilant quand même sur ce qu'il va acheter, essayer d'aller prendre quand même les produits où il y a le plus de peut-être le plus de détails sur la notice, mais de toute façon c'est vraiment très 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 aléatoire. En revanche, ce que nous on essaye d'obtenir, ce qu'on demande, c'est simplement qu'au niveau des autorités, eux refassent une réglementation vraiment claire, parce que c'est comme ça qu'on aura des produits de qualité et qu'on assurera la sécurité des consommateurs. Et je pense que, enfin d'ailleurs, même les fabricants sont demandeurs, parce que le flou il est bon pour personne en fait.
Merci beaucoup Adélaïde Robert Géraudel d'avoir répondu à nos questions, et donc je rappelle que le dossier sur le sujet du CBD se trouve dans le dernier numéro actuellement en kiosque du magazine 60 millions de consommateurs. Merci.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être et la sexo, bien sûr, c'est sur Europe 1. Nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, bien évidemment, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints, comme tous les jours, par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Aujourd'hui, Catherine, on va tenter de répondre à la question de Martin. Il a 22 ans et il nous écrit « Je viens de quitter le nid récemment pour un petit studio à Paris. L'autre jour, ma mère est venue m'apporter une couverture, une place. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une couverture, deux places. Elle m'a dit que c'était bien suffisant pour moi tout seul, mais je ne suis pas toujours seule. Mais elle ne veut pas en entendre parler. Pourquoi insiste-t-elle ? Alors Catherine, c'est un peu bizarre, non ? Une maman qui offre une couverture, une place à son fils adulte, je précise. Un petit garçon de 7 ans, on lui offre une couverture d'une place. Mais là, il y a un truc un peu pathologique, non ?
Ça n'est pas toujours facile de voir ses enfants partir et de les considérer comme n'étant plus des enfants, justement, et ayant une vie propre, une sexualité notamment. Et évidemment, offrir une couverture de place, après il faudrait savoir si c'est un lit de place ou si c'est un lit à une place, mais offrir en tout cas une couverture de place, c'est considérer qu'il pourrait y avoir une deuxième personne. Et peut-être que c'est compliqué pour cette maman de faire ne serait-ce que le message de donner cette invitation par la couverture de place. Du coup, c'est une place, malgré les récriminations du fils. Et évidemment, elle a du mal à rentrer là-dedans. D'ailleurs, a-t-elle à rentrer là-dedans ? Je veux dire, on peut sourire tendrement vis-à-vis d'une maman qui refuse. Maintenant, on peut aussi lui dire...
Un peu accroché à son bébé. Hein.
Je crois que tu n'as pas considéré que je n'étais plus un bébé, en effet. Il m'arrive d'avoir une vie de partage.
Vous qui avez une couverture 8 places, Jimmy.
Ah oui, voilà, c'est vrai. Alors, mais, enfin, 8 places, non, bah, parce que j'ai 8 compagnes, mais parce que j'ai des enfants, attention, qui viennent nous rejoindre la nuit, non, pas de confusion.
Pas de
polygamie, attention. Alors, Martin, malgré tout, il ne dit pas qu'il est en couple, il se présente comme célibataire, donc c'est peut-être aussi lui le responsable de dire, écoute, maman, 22 ans, de temps en temps, j'ai des relations... homme ou femme, parce que c'est pas très précisé, donc il est lui aussi de son côté, il est un peu sur la retenue. À 22 ans, on peut s'affirmer en tant qu'homme.
Oui, c'est ça, on peut dire, écoute maman, déjà on peut se poser la question, pourquoi c'est maman qui ramène la couverture. On peut aussi, il aurait pu aussi...
Bon, je j'amènerai des couvertures ça... à mon fils, je crois.
J'en doute pas.
On n'est pas sortis de l'auberge. Bon, donc,
oui,
j'espère
je vous appellerai dans quelques années, Catherine.
je vous invite à prévoir la couverture qui
une grande,
voilà,
je suis gentille,
grande,
moi,
pour
je suis
que ce soit bien confortable. Oui, non, bien sûr qu'on peut aussi se poser la question pourquoi il ne l'achète pas lui-même, pourquoi c'est maman qui doit l'acheter, pourquoi il peut se la faire rembourser si c'est pour des questions matérielles. Mais je veux dire par là qu'il peut aussi décider de ce qu'il souhaite lui-même. Et c'est tout, ça raconte donc toute la complexité de leur relation. C'est à la fois un enfant qui part prendre son autonomie, qui râle qu'une mère ne lui donne pas l'autonomie notamment de sa sexualité, et à la fois une mère qui veut accompagner son enfant tout en le remettant exactement dans le nid initial. Donc c'est que cette relation doit être particulièrement fusionnelle et qui a du mal à défusionner, bien sûr.
C'est courant ça, les mamans qui ont beaucoup de mal comme ça, avec le, je crois que c'est ce qu'on appelle le syndrome du nid vide. Et donc, comment il peut réagir, Martin? Parce qu'il ne veut pas faire du mal à sa mère, on l'imagine bien. Donc c'est dans la douceur lui faire comprendre ou rien dire, c'est pas grave après tout, c'est pas si grave que ça non plus si elle ne réalise pas. Comment il peut s'y prendre?
Je pense qu'il faut pouvoir le dire parce que sur des sujets, c'est pas grave du tout, bien sûr. Mais simplement, ça risque de poser des problèmes sur d'autres sujets. C'est vrai qu'il y a des mamans qui ont le sentiment que si elles n'ont plus leur rôle à jouer, eh bien, elles n'ont plus de fonction du tout. Or, on n'a pas une seule fonction qui est la fonction d'élever ses enfants, de les faire grandir et de les garder toujours en passe de devenir grands un jour. On parlait tout à l'heure des vieux et qu'à partir du moment où on ne travaille plus comme si on était un vieux, on n'était plus rien, à partir du moment où une maman n'a plus à jouer son rôle d'éducatrice, elle continue à avoir plein de projets et plein de projets qui lui permettront de rencontrer son enfant devenu adulte, justement.
Moi, les miens resteront petits toujours, c'est prévu.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Réserver quelques créneaux, à mon avis.
Je le mets tout de suite, vous pensez bien.
Alors,
je
Martin, est-ce qu'il n'en fait pas trop? Est-ce qu'il n'a pas juste qu'à accepter cette couverture une place? Il la revend sur le bon coin, il se fait un peu d'argent, et puis derrière, il rachète une couverture de place. Est-ce que c'est vraiment un sujet? Ou est-ce qu'il faut passer à autre chose?
Non, vous avez raison, c'est vrai, peut-être qu'il en fait. Alors, ou c'est une plaisanterie, c'est une occasion ici de poser une question en disant est-ce que j'ai bien raison de trouver
Nous,
que ma mère...
on prend toutes les questions, alors.
Voilà, ça peut être une façon de dire est-ce que j'ai bien raison de trouver que ma mère exagère un petit peu et m'infantilise? Ou alors, c'est un vrai sujet pour lui. Et donc, du coup, ça pose la question pourquoi c'est un vrai sujet? Ça veut dire qu'il est encore lui-même très fixé sur sa maman. C'est difficile de quitter sa mère, de quitter cette... Parce que même si après, on va remplacer par d'autres amours, d'autres relations, eh bien, on a toujours peur que la personne que l'on quitte trouve son bonheur et son plaisir à être sans soi. Donc on aime bien l'idée de continuer à être un sujet pour l'autre. Et du coup, ça se mélange entre la mère qui a du mal et l'enfant qui ne veut pas céder la place.
Catherine, on ne fait que parler des mères là, mais est-ce que Jimmy n'aura pas aussi peut-être le syndrome du nid vide? Est-ce que ça touche aussi les papas, ce problème-là? Parce qu'on ne parle que des femmes là.
Alors c'est vrai que ça touche plus les femmes parce que ça réveille le moment où les mères mettent au monde et elles ont leur ventre vide. Donc elles vont essayer de surinvestir ce bébé et d'ailleurs heureusement parce que c'est ce qui permet aussi la sauvegarde de l'enfant, ce que les hommes ne vivent pas nécessairement dans le corps. Pour autant, il y a des papas qui jouent profondément, qui s'expriment profondément, qui réparent beaucoup de choses de ce côté-là, et qui eux aussi souffrent terriblement de l'envol de leurs enfants. Bien sûr que ce n'est pas qu'une problématique maternelle.
Très bien, merci beaucoup, beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr comme tous les jours demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Alors aujourd'hui, dans l'émission, ils n'ont jamais voyagé. Bah, nous non plus en ce moment, on ne peut pas.
Mais
eux, ils n'ont
point.
Jamais. Par exemple, le douanier Rousseau qui a peint des jungles incroyables, il n'est jamais sorti de chez lui.
Même avant le confinement, il ne pouvait pas. Non,
il ne pouvait pas. Emmanuel Kant, vous savez,
le
philosophe de la raison pure, eh bien, lui.
Même de la critique de la raison
critique
pure.
De la raison pure.
Il ne s'est pas contenté de parler juste de la raison pure.
Oui, j'essaie d'aller plus vite. Il n'est jamais sorti de Königsberg.
Jamais.
Et vous avez trouvé quelqu'un.
Écoutez, moi, je vous pose une colle. C'est une photographe qui photographie le monde entier et pourtant, elle n'est jamais sortie de chez elle.
Ah
qui
oui.
suis-je?
Elle photographie ses albums, pas des livres.
Stéphane, c'est désolant. Essaie de réfléchir mieux. À tout à l'heure.
Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une excellente émission. Nous serons à l'écoute et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.